Eh bien, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je voudrais commencer cette conférence sur Clovis. Et ce n'est pas simplement une formule, c'est une vraie prière et une mise en introduction d'un esprit, vous n'entendez pas bien ? Voilà. D'un esprit surnaturel pour traiter de notre histoire sainte de France qui est surnaturelle. Et il me semble que d'activer cette vertu de foi que nous avons est nécessaire pour déterminer le cœur de l'histoire que je voudrais exposer un petit peu, la présenter rapidement avec vous. Parce que si la raison, l'intelligence permet d'avoir le décor de l'histoire, d'avoir des faits, des dates, les batailles, ça c'est le décor, mais ce qui en fait l'âme, eh bien ce sont les saints, c'est la providence, c'est l'action surnaturelle de Dieu et ce qui affleure à toutes les pages de Clovis. Et c'est pour avoir méconnu ce principe, en particulier depuis le XVIIe siècle, où la raison a pris le pas sur la foi, où on a séparé le domaine de la foi qui est l'Église, le domaine de la raison qui est la science, donc la science historique, qu'on a perdu la vraie vision de Clovis. Et ce livre, en fait, c'est l'aboutissement pour moi, c'était une redécouverte, de constater qu'on l'appelle tous Clovis, on devrait l'appeler, comme on l'appelait autrefois, le Saint Roi Clovis. Et c'est toute la thèse un peu de ce livre, donc qui n'est pas la mienne, mais qui est retrouvée parmi quantité d'historiens d'Ancien Régime, qui sont méconnus et méprisés par les nouveaux historiens, donc rationalistes, qui accordent le primat à la raison. Et ce sera donc à la fois un hommage au roi Clovis et un hommage aux historiens, en particulier aux moines du Moyen-Âge, qu'on dit avoir inventé, brodé, chargé les histoires de quantité de miracles inventés, copiés sur l'Ancien Testament. En fait, ce n'est pas copié sur l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament qui reprend vie en France à partir de l'avènement de ce roi extraordinaire. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est pour ça que vous avez une carte devant, là, qui représente l'arrivée de la foi en Gaule, mais l'arrivée de la foi sous forme de graines, de semences, qui sont invisibles aux yeux aujourd'hui de l'historien parce qu'il n'y a pas de cathédrale, il n'y a pas d'abbaye à ce moment-là. Mais il y a la foi qui est rentrée, c'est attesté dans tous les diocèses. Donc là, vous avez dans chaque diocèse, vous avez un saint qui est disciple ou qui est envoyé par un des apôtres ou souvent par Saint-Pierre et qui l'a apporté. Mais du 1er jusqu'au 5e siècle, cette foi, elle est dans les catacombes. Et il faut qu'il y ait un jour un avènement d'une puissance politique, une puissance guerrière, qui prennent cette foi à son compte et qui puissent commencer à défendre l'Église, les monastères, les veuves, les orphelins, etc. Et la première partie de ce livre, c'est ça, ça s'appelle « Le réveil de la foi en Gaule ». C'est comment est-ce que le fil a été maintenu au début du 5e siècle jusqu'à l'avènement de Clovis par les saints. Donc il y a Sainte Geneviève, patronne de Paris, il y a Saint Germain, l'évêque d'Auxerre, qui va faire de Sainte Geneviève une des premières religieuses. Il y a Saint-Aignan à Orléans qui va défendre la ville contre Attila. Mais vous voyez, c'est des initiatives d'évêques, il n'y a pas d'armée du Christ. Et avec le Clovis, on trouve une armée prête à faire la première croisade. Un mot aussi pour expliquer le titre, l'évangile de Clovis, qui intrigue souvent les gens, parce qu'on pense que l'évangile, c'est réservé à la vie de notre Seigneur. Et en fait, là, l'idée, c'est de dire que la vie de notre Seigneur, c'est un commencement, mais qui aboutit, qui continue encore aujourd'hui. Et qu'au 5e siècle, l'Évangile, il passe par Clovis. Et que sur la figure de la couverture, vous avez trois personnages principaux. Le premier personnage, évidemment, c'est Clovis. À côté de lui, vous avez Saint-Rémy qui est en train de le baptiser, de le sacrer. Saint-Rémy, c'est l'Église. Clovis, c'est la figure du Christ. C'est le premier lieutenant du Christ sur la terre. Mais le personnage le plus principal, c'est pas tellement ces deux-là, mais il est tellement modeste, il est tellement humble, si on veut, pardon pour la couverture, il est tellement qu'on le voit à peine et qu'il est mis de côté par les historiens, y compris catholiques aujourd'hui. Et c'est la colombe que vous voyez qui apporte la Sainte Ampoule. S'il n'y a pas de Sainte Ampoule et s'il n'y a pas de colombe, il n'y a pas de sacre, toute l'histoire de France s'effondre. Parce que si on est monarchie de droit divin, il faut que Dieu intervienne, non seulement par l'Église, comme elle est intervenue, par exemple pour Constantin ou pour tous les autres rois, les autres monarchies, il faut que Dieu intervienne de manière divine. Et ce qui est admirable dans cet apport de la Sainte Ampoule, c'est que la colombe n'est pas au-dessus de Clovis, comme elle l'est pour le Christ dans le baptême du Jourdain, elle arrive dans la main de Saint Rémy. Et donc c'est dire l'importance de l'Église qui va, avec cet apport surnaturel, sacrer le roi. Tandis que le Christ, évidemment, il est Dieu. Donc le Saint-Esprit se positionne sur le... Et le... Un jour, j'ai montré cette couverture-là à un petit neveu qui ne connaissait pas cette histoire, et je lui ai demandé, mais pour toi, ça représente quoi, ce tableau-là? Et il m'a dit, c'est tout de suite, un petit enfant de 4 ans, il me dit, c'est Jésus. Parce qu'il voit le baptême, et puis il s'imagine. Et ça ne m'allait pas tout à fait, parce que je dis, mais un Jésus en armure, avec sa hache, etc., c'est quand même... Et puis il réfléchit à nouveau, et il me dit, c'est le Jésus de la guerre. Et bien, c'est avec ces mots d'enfant, ça veut dire ça. C'est l'évangile de Clovis, c'est le Christ qui revient au 5e siècle, mais avec une puissance. Et c'est ça qui est nouveau et qui nous manque aujourd'hui. On est chrétien, on est dans une petite chapelle, enfin une salle. Ce qui nous manque, c'est la puissance. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un homme comme ça, avec un évêque comme ça, et puis la Sainte Ampoule. Mais la Sainte Ampoule, on l'a. Vous savez qu'elle est toujours à Reims, et que si les catholiques n'y croient plus, les révolutionnaires, eux, y croyaient. Parce qu'en 1793, la Convention a envoyé un certain Roule pour détruire la Sainte Ampoule, ce qu'il a fait. Mais comme un barbare, il fracasse la Sainte Ampoule, il ne sait pas ce qui se passe avant et après. Et avant, il y avait le sacristain la veille qui avait récupéré quelques parcelles, et après, en fait, la Sainte Ampoule fracassée conservait des petites parcelles du baume qui était assez visqueux. Et l'évêque de Reims, après la Révolution, a fait l'enquête, a récupéré les témoins, les débris, etc., et a reconstitué une ampoule dans laquelle il a remis le baume d'avant la Révolution. Et là, on arrive sur un principe, oui, mais c'est un évêque qui a fait ça, comment on est sûr que c'est vrai? Il aurait pu se tromper, cet évêque. Alors moi, je suis arrivé à la conviction de dire, parce que Saint Pie X le dit, et il me semble que c'est l'usage de l'Église, si l'ordinaire du lieu fait l'enquête, et qu'il n'y a pas de contestation sur le moment, enfin qu'il le fait dans les règles voulues par l'Église, on est sûr que cette Sainte Ampoule est véridique. Comme toutes les reliques qui existent dans les églises, si l'ordinaire du lieu, donc le curé, en accord avec l'évêque, en accord avec Rome, atteste que c'est une relique authentique, il faut arrêter de mettre du conditionnel, cette relique serait celle de Saint-Louis, Saint-Rémy, Sainte-Geneviève, ou je ne sais pas qui. Et avec ce principe que je voudrais défendre, et puis peut-être promouvoir, déjà vous convaincre, vous, et puis de dire, si l'Église a cru, donc telle relique, ou tel miracle, ou telle histoire, si elle l'a cru un jour, eh bien, nous, on n'a aucune raison de ne pas le croire. À moins que, effectivement, on ait les objections de la raison, et c'est là qu'il y a, pour chacun, un combat entre la foi et la raison. Qu'est-ce qui va l'emporter? Est-ce que ça va être l'objection de la science actuelle qui va dire, oui, mais on n'a pas la preuve, on n'a pas la photo de cette Sainte Ampoule? Au moment, c'est raconté 4 siècles plus tard par l'archevêque Hincmar. Donc comme il y a 4 siècles de différence, la raison, elle a du mal à accorder sa foi à un événement aussi extraordinaire. Sauf que celui qui atteste, c'est l'archevêque de Reims. Donc il a grâce d'État pour faire ça. Et il n'y a aucune contestation entre Hincmar et le XVIIe siècle, c'est-à-dire 1000 ans. Voilà. Et parce que en discutant un petit peu avec des historiens, ils me disaient... l'Église est infaillible pour les questions de doctrine, de dogme. Et donc là, l'enjeu, c'est de savoir si on pourrait étendre cette infaillibilité, non seulement au dogme et à la doctrine, mais aux reliques, aux histoires saintes, aux miracles, aux apparitions de la Sainte Vierge, etc. Et si l'Église n'a peut-être pas tranché de manière certaine aujourd'hui, elle n'a pas tranché non plus dans le sens contraire. Donc il me semble que ça fait partie des opinions qu'il faudrait développer, travailler et puis appuyer. Mais pour le moment, moi j'ai pris le parti de dire tout ce que l'Église a cru, on l'enregistre comme des vérités. Voilà, et donc l'évangile de Clovis selon la foi de nos pères, et là c'est aussi une reconnaissance envers nos pères qui ont cru ces histoires, et un appel à revenir plutôt à cette foi de nos pères, à cette ancienne croyance, ça s'oppose en fait à la science des savants. Mais pas au sens de la vraie science des savants, mais de la science orgueilleuse des savants qui se sont émancipés de ce qu'a dit l'Église autrefois. Voilà. Et là aussi, il y a tout un combat qu'il faudrait mener pour montrer par les armes de la science, puisqu'ils utilisent les armes de la science, on peut le faire, que tout ce qu'ont cru nos pères ne se vérifie de plus en plus aujourd'hui. Et beaucoup d'historiens qui hier étaient décriés, et bien finalement, ils sont obligés de reconnaître petit à petit que, ah ben non, en fait, c'est, il y a des choses qui l'attestent a posteriori. Et voilà, ce livre, c'est aussi la conviction que rappelait Léon XIII à la fin du XIXe siècle, que quand une société est en décadence, pour la réformer, il faut la ramener à ses origines. Et les origines de la France, on peut chercher, mais il n'y en a qu'une, c'est l'histoire de Clovis, Saint-Rémy, Sainte-Clotilde, etc. Et tous les rois qui ont suivi. Et donc de revenir à cette histoire, mais la vraie histoire, avec tous les miracles. Voilà, autre merveille de cette étude, c'est de découvrir que de la même manière que pour l'Évangile, on a toute l'histoire de l'Église en germe, toute la doctrine, par exemple des sacrements, on les trouve dans l'Évangile. Quand Jésus guérit un paralytique ou qui pardonne les péchés, on a déjà le sacrement de confession en germe. Il n'y a pas tout le... Eh bien, c'est pareil avec Clovis. Dans les actions de Clovis, par exemple, quand Saint-Rémy, la veille de son baptême, enseigne la foi à Clovis et puis à ses francs, il lui raconte, il lui parle de notre Seigneur, donc Clovis s'attache à la personne de notre Seigneur, et puis il montre le complot qui petit à petit se rapproche de notre Seigneur jusqu'à ce que les Juifs viennent mettre la main sur le Christ dans le jardin des Oliviers. Et à ce moment-là, d'un bond, vous connaissez le cri de Clovis, « Ah, que n'avais-je là avec mes francs en levant son épée, en disant « J'aurais vengé mon Dieu, j'aurais pas laissé faire ça ». Et ça, c'est à la fois tout l'esprit français et l'âme française, je veux dire, mais c'est aussi toute la vocation de la France qui est de défendre l'Église. Donc ce que Clovis n'a pas pu faire avec notre Seigneur ce soir-là, le soir du Jardin des Oliviers, eh ben, lui et ses successeurs le feront pendant 15 siècles, c'est-à-dire défendre l'Église. Quand le pape est en danger, il y a toujours un roi qui lâche tout son devoir d'État sur place. Il déboule près de Rome les États pontificaux, il défend le pape, comme il avait défendu Saint-Rémy pour le vase de Soissons, alors qu'il était encore païen. Et on découvre en fait que par ces petits faits apparemment prosaïques, eh bien, il y a une puissance, une énergie qui va faire que tous les successeurs, par exemple Saint-Charlemagne, comme disait Sainte-Jeanne d'Arc, lisaient la vie de Clovis pendant les repas, parce qu'il n'avait pas le temps ailleurs, mais il se faisait la lecture à table de Clovis. Et on me rappelait tout à l'heure l'importance de Charlemagne pour la défense du tombeau du Christ, la défense des Sarrasins qui arrivaient en Espagne, et puis des États pontificaux à Rome, et puis des Alamans qui envahissaient, il était partout. C'était l'épée vraiment mise au service de l'Église. Et Saint-Louis étudiera la vie de Saint-Charlemagne et de Clovis. Donc il me semble qu'à nous de revenir sur ces vies anciennes, à commencer par celle-là, et puis tous les rois qui suivent, pour nous en inspirer, nous donner du courage, et puis l'espérance. L'espérance parce que Clovis, quand il est roi, il a 15 ans, on est en 481, il n'y a plus rien. L'Empire romain vient de s'effondrer, 5 ans plus tôt, et petit roi de 15 ans, que faire? Et déjà là, vous avez un signe que ces Francs ne sont pas si barbares que ça, parce qu'ils acceptent d'être commandés par un jeune homme de 15 ans, qui est juste le fils de son père. Donc ils avaient déjà la loi salique, que je crois être une réminiscence de la loi de l'Ancien Testament, des rois de Juda, qui se transmettait de père en fils, et qui fait qu'il a accepté par ses soldats. Et en l'espace de 15 ans, eh ben, il va conquérir, enfin 15 ans pour sa conversion, et ensuite 15 ans de sa conversion jusqu'à sa mort, il va conquérir un territoire plus grand que la France actuelle, qui commence au Rhin, les rives du Rhin, jusqu'aux Pyrénées. Et quasiment, il y aura des batailles, mais on pourrait dire quasiment sans coup férir, parce que les vraies batailles militaires que va avoir Clovis, c'est par la grâce de Dieu. C'est des miracles à chaque fois qu'il part au combat. Un mot à propos des combats de Clovis, c'est son obéissance à l'Église qui va jusqu'à l'héroïsme, parce que quand il part contre il part pas contre ses ennemis personnels, il part contre les ennemis de l'Église, c'est-à-dire les Ariens, les mauvais chrétiens qui n'ont pas la vraie foi et qui oppriment les populations. Tout est lié. Et à chaque fois qu'il part en campagne militaire, il va demander la permission à Saint-Rémy pour avoir sa bénédiction, et Saint-Rémy lui donne un flacon. C'était valable pour les Burgondes en 500 et puis pour les Visigoths en 507. Et Saint-Rémy dit à Clovis, quand ce flacon sera vide, il faudra arrêter les campagnes militaires, parce que là, vous dépasserez les bornes permises par Dieu. Mais tant que le flacon sera rempli, et vous en boirez avant chaque bataille avec vos guerriers, vous aurez la victoire à coup sûr. Donc il renouvelait son acte de foi comme ça et la bénédiction de Saint-Rémy. Et quand il arrive, quand il a vraiment ratatiné tous les Wisigoths, il arrive jusqu'à Carcassonne. À Carcassonne, il y avait le trésor qui avait été pillé par les armées barbares à Rome et qui venait en fait du temple de Jérusalem. Donc des trésors sans prix, quoi, immenses. Et les historiens constatent que Clovis fait demi-tour juste avant la bataille. Parce que Théodoric vient protéger, qui est le roi des Ostrogoths en Italie, vient protéger ce trésor de Carcassonne. Il fait demi-tour, il laisse son fils, Théodoric, un autre, et puis le roi des Burgondes, Gondebo, qui vont jamais réussir à prendre Carcassonne, lui repart. Les historiens disent, c'est étonnant qu'un chef comme ça, si victorieux depuis des mois, si courageux, là, fasse demi-tour. Moi, ce qui me semble, là, je peux pas le prouver, mais c'est une hypothèse. Il paraît que c'est permis en histoire de faire des hypothèses. Si le flacon était vide à ce moment-là, on comprend pourquoi il a fait demi-tour. Mais si c'est le cas, eh ben, ça manifeste une vertu héroïque de ce roi qui a 800 km de Saint-Rémy, que personne ne contrôle, et qui préfère obéir à Dieu, c'est-à-dire à l'Église, plutôt que d'avoir les richesses qu'il avait besoin pour payer ses guerriers, ses campagnes, faire tout ce qu'il avait. Voilà. Cette croisade de Clovis contre les Wisigoths en 507, c'est un chapitre, ça prend 10 minutes à lire, mais alors je vous assure, il faut le lire 10 minutes, puis après il faut aller à la chapelle et puis contempler les merveilles que Dieu a faites pour ce roi. Parce que donc il part après être allé voir Saint-Rémy, il fait le vœu, suivant les conseils de Sainte Geneviève et Sainte Clotilde, de bâtir l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Aujourd'hui, c'est le lycée Henri IV, pour ceux qui connaissent, en haut de la montagne Sainte-Geneviève, à Paris. Il y a encore la tour Clovis, avec la crypte où il sera enterré plus tard. Il fait le vœu de bâtir cette église à Saint-Pierre-Saint-Paul. À chaque fois qu'il va bâtir une abbaye ou une église ou un sanctuaire, presque, je crois que c'est toujours Saint-Pierre, Saint-Pierre-Saint-Paul, ou Saint-Père, enfin c'est toujours c'était la marque des catholiques à ce moment-là, d'être attachés au pape par les apôtres Saint-Pierre, Saint-Paul. Donc il écrit une lettre à tous les évêques de Gaule, y compris ceux qui sont en territoire qui ne sont pas encore les siens, qui sont en territoire occupé, en disant que cette guerre, ça va être une guerre sainte, donc on ne prendra rien sur la population, mais par contre les guerriers, c'est possible qu'il y ait des prises de prisonniers, ça c'est naturel, ça se fait comme ça. Mais il permet aux évêques, s'il y a des guerriers qui sont, s'il y a des erreurs ou des choses, les évêques lui écrivent directement à lui pour libérer les injustices qu'il a pu avoir. Le souci qu'il a toujours de la justice de son armée. Et quand il part, on ne sait pas très bien si c'est un pèlerinage ou une croisade, tellement il est confiant en dévotion. Donc il part avec son aumônier, le Saint Lupicin, et il demande à une ambassade d'aller à Tours, faire des présents, des cadeaux à Saint-Martin, qui est le patron de la Gaule à ce moment-là, qui a converti toutes les campagnes. Et quand les guerriers arrivent, pénètrent dans la basilique de Tours, les chantres entonnent le verset du psaume 17e, qui dit ceci: « Vous m'avez revêtu de force pour la guerre, vous avez supplanté ceux qui s'étaient élevés, vous avez mis mes ennemis en fuite, et vous avez exterminé ceux qui me haïssent. » Et à cette époque-là, c'était Dieu parlait ainsi. C'était connu que quand on rentre dans une église, la parole indique une certaine volonté de Dieu. Donc, enthousiasme de Clovis, de l'armée, qui comprend que Dieu est avec lui. Et que c'est le, comme dira Hincmar, que le roi devient le nouveau chef du peuple de Dieu. De la même manière que le peuple d'Israël avec la tribu de Juda faisait les conquêtes du Seigneur, ben maintenant, cette tribu de Juda nouvelle, comme dira Saint Pilis, eh ben ce sont les Francs qui ont cette vocation-là. Et sorti de du territoire de Tours, entrant plutôt dans le territoire de Tours, Clovis s'adresse à son armée en lui expliquant qu'on fait une guerre qui est sainte, dans une terre qui est sainte, et donc il interdit de prendre quoi que ce soit sur la population. Donc il tranche avec les habitudes qu'ont encore un certain nombre de ces Francs qui ne sont pas tous convertis, ce qui n'a forcé personne à se convertir. Et il permet que deux choses, c'est pour les animaux, pour les chevaux, c'est l'eau des rivières et les pâtures, c'est tout. Et il y a un Franc, un soldat, qui se croit un peu plus malin que les autres, et qui vole du foin chez un pauvre paysan, et pour nourrir son cheval, parce que voilà, et puis pour faire sans doute le prétentieux. Clovis apprend ça, fait venir le guerrier, et exerce la peine capitale contre ce guerrier. Alors évidemment, les historiens aujourd'hui sont choqués que pour prendre du foin, la peine capitale. N'empêche que ça montre le souci de la justice du roi qui préfère sacrifier l'un de ses guerriers pour le bon droit et puis pour protéger ce pauvre paysan, mais du coup tous les autres, parce que plus un seul guerrier ensuite ne s'est permis de faire une chose comme ça. Et là, en germe, on a un petit peu l'image de Saint-Louis sous son chêne qui rend la justice, qui préfère donner raison, il disait, à un pauvre, à un paysan, plutôt qu'à son propre frère, si le bon droit était du côté du paysan. Ensuite, obstacle. Certains chroniqueurs disent que Dieu se plaisait à dresser des obstacles, des embûches sur sa route pour permettre à Clovis de faire un acte de foi et à Dieu de faire un miracle. Et donc, dans cette histoire-là, il y a la rivière de la Vienne, juste avant d'arriver à Poitiers. Poitiers, là où sont les troupes d'Alaric, le roi des Visigoths. La Vienne a débordé, il n'y a pas moyen de traverser. Et en fait, ça urge, parce qu'il y a les renforts des Visigoths qui sont en train d'arriver, donc il faut que le combat ait lieu avant. Et le roi se met en prière, comme il fait toujours. Et au petit matin, une biche d'une grandeur extraordinaire traverse l'armée. Traverse la rivière sur un guet qui indique le passage pour l'armée. Toute l'armée passe en chantant et puis en ayant le. C'était comparé à la traversée de la mer Rouge pour les Hébreux, si vous voulez. C'était vraiment l'obstacle qu'il fallait franchir. À l'occasion de ce passage, il y a un lieu près de Poitiers qui s'appelle Civaux et qui maintient la tradition selon laquelle Clovis aurait dit. Pour tous les Francs qui ont assisté à ce prodige et qui ont eu le désir de se convertir, le roi, sur son cheval, aurait dit « Si vaut ici, tant qu'ailleurs ». Et cette fontaine s'appelle la Font chrétienne, elle existe encore. Et donc c'est là qu'aurait eu lieu un certain nombre de baptêmes de ces guerriers, en pleine campagne militaire. On dit même que c'est au moment où Clovis, sur son cheval, avec le sabot de son cheval, qu'une source a jailli qui a permis de faire le. De baptiser les guerriers. Ensuite, il s'approche des troupes ennemies, et une nuit que le roi est en prière la veille du combat, là, il y a au-dessus, les guerriers constatent un globe de feu qui sort de la basilique Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, c'était un siècle avant, le combat contre les Ariens, mais par la plume. C'est le seul évêque en Occident qui avait maintenu la foi catholique. Tout le clergé, les évêques y compris, étaient passés à l'arianisme. Il y a un globe de feu donc, qui se forme au-dessus de cette basilique, qui monte dans le ciel, qui se décale et qui descend au-dessus de la tente où était le roi. Toute l'armée l'a compris comme évidemment un signe de présage de victoire. Et c'était aussi dire que ce soit par la plume ou par l'épée, c'est le même combat contre l'hérésie. Et donc c'est la même vigueur de la foi qui animait Saint-Hilaire et qui doit animer le roi et qui doit animer l'armée. Voilà, ensuite donc, le combat a lieu donc, sur les plaines de Vouillé. Là, on retrouve la bravoure de nos rois qui ne sont pas à l'arrière en train d'ordonner ce qui se passe. Ils sont à la tête des troupes et quand ils découvrent Alaric un endroit sur le champ de bataille, il prend son cheval et il fonce contre lui. Et il a abattu Alaric en combat singulier, chacun sur son cheval. Au moment où il tue Alaric, il y a deux félons visigoths qui s'approchent du roi. Et qui ont été à deux doigts de le transpercer par leur lance. Il a fallu qu'il fasse un geste, paraît-il, extraordinaire d'agilité avec son cheval pour échapper à ça. J'ai oublié de vous dire que quand il est passé à Tours, il a été prié donc, devant le tombeau de Saint-Martin. Et il a demandé à prendre ce qui restait du manteau de Saint-Martin, de sa chape. Et ça a été le premier oriflamme de France à ce moment-là. D'où le titre de chapelain ensuite. C'est-à-dire que Saint-Lupicin, qui était son aumônier, avait la charge, la garde de la chape de Saint-Martin. Et donc, du chapelain, on a fait une chapelle, c'était la chapelle royale, et puis après, toutes nos petites chapelles viennent de cette histoire-là de Clovis. Une fois qu'il a renvoyé les Visigoths là, de Poitiers, ils fondent une abbaye au Dora. À côté, enfin. Et puis il apprend que des soldats ont molesté un certain abbé qui s'appelle Mexan. C'est Saint-Mexan, oui, à l'est de Poitiers, qui est devenu l'école militaire. Il apprend ça Et en fait, c'était un guerrier qui avait voulu piller le petit couvent, là, le petit ermitage de Mexan avec ses frères. Et il y a eu un miracle, là. C'est que quand il a voulu couper la tête du moine, du saint, et quand il a levé son épée, son bras est resté paralysé derrière son oreille. Et donc le saint, avec de l'huile, a guéri son bras, il a retrouvé l'usage de ses membres. Clovis apprend ça, on est en pleine campagne militaire, il a encore toute l'Aquitaine à descendre, là. Il arrête tout, il va trouver saint Mexan, et que croyez-vous qu'il arriva ? Non, c'est pas la peine capitale pour le guerrier. Il se met à genoux et il demande pardon pour le guerrier qui a fait ça contre le saint. C'est des histoires comme ça qui me semblent qu'il faudrait mettre en film. Enfin, c'est tellement édifiant que les mots me manquent quoi, pour dire un roi qui demande pardon, pas pour ses fautes, mais pour les fautes d'un de ses. Et on a gardé dans la ville de Saint-Mexan, dans l'abbaye, parce que plus tard ce sera une immense abbaye, une pierre qui marquait l'endroit où le roi avait mis genou à terre. Une fois qu'il est arrivé là, et il prend ses quartiers à Bordeaux, qui lui ouvre ses portes sans coup faire rire. Il laisse Angoulême, parce qu'il sait qu'à Angoulême, il y a le petit résidu de Visigoth. C'est une ville très difficile à prendre, avec de gros remparts. Il repart au printemps avec son fils, Thierry. Et il met l'objectif sur Toulouse. Et apparemment, il y a eu une escarmouche, quelque chose. Un jour, il a perdu 1000 de ses francs et il est vraiment affligé. La nuit suivante, il a un songe, deux griffons qui prennent des pierres et puis qui vont les mettre à un endroit particulier. Et le lendemain de ce premier songe, il ne fait rien, mais quand il a un deuxième songe, il comprend que c'est vraiment volonté de Dieu. Il l'interprète comme « il faut qu'on fonde ici un oratoire où des gens prient pour l'âme de nos soldats qui sont morts. » C'est l'origine de l'abbaye de Moissac, immense abbaye, et en fait tout ça, c'est raconté dans les archives de l'abbaye. Et un détail intéressant, sur le portail, le tympan plutôt, de l'entrée de l'abbatiale, il y a la figure du Christ, comme souvent, et on dit que cette figure du Christ a été prise sur le modèle du roi Clovis. Donc on a vraiment la conviction, avant Sainte-Jeanne d'Arc, on est quand même 1000 ans avant, que le roi de France, c'est le lieutenant, le représentant du Christ sur la terre. Si bien que maintenant, il faut dire que Sainte-Jeanne d'Arc, on le sait, hein, sans doute vous le savez, et moi je l'ai redécouvert avec cette histoire, que Sainte-Jeanne d'Arc n'a rien inventé, mais elle est venue revivifier toute cette religion royale qui existe 1000 ans avant elle. Oui, donc là, l'abbaye de Moissac, en fait, il commence à bâtir cette abbaye et on est en plein marécage. Et donc, il commence et il comprend que on continuera plus tard, il faut quand même qu'on termine la campagne. Il laisse ça en chantier, mais il y reviendra au retour. Il prend Toulouse de la même manière, miraculeusement. Carcassonne, comme je vous racontais tout à l'heure, il fait demi-tour. Il passe 15 jours dans cette abbaye de Moissac où il rencontre un saint évêque, saint Germier, qui l'accueille à la cour, qui fait venir parler, qui fait venir prêcher, qui confesse les soldats qui sont déjà chrétiens, qui convertit les autres. Et à la fin, il fait une action, un petit peu comme les prophètes de l'Ancien Testament, il vient se faire bénir par les cheveux au saint. C'est-à-dire qu'il s'incline et le saint doit poser la main sur ça. Et il dit à ses guerriers de faire la même chose. Et la chevelure pour les francs est très importante parce que les seuls ceux qui avaient du pouvoir avaient la permission d'avoir des cheveux longs. Et ça aussi, il me semble que c'est une réminiscence des rois de Juda, en particulier de l'histoire de Samson, qui avait cette puissance dans sa chevelure. Et eux-mêmes peut-être ont oublié leurs origines judaïques, mais ils en avaient gardé certains usages. Et pour moi, c'est la seule explication pour laquelle Saint-Rémy va faire des promesses à Clovis le soir de son sacre, qui soient absolument semblables à celles de Samuel en faveur du roi David, en disant « Votre postérité à jamais fera les combats du Seigneur ». Carcassonne y remonte. Et là, encore un miracle pour, je crois que j'ai appelé ce chapitre, le couronnement de la croisade. C'est entre Carcassonne et puis Angoulême. Angoulême, donc, c'était vraiment la cité imprenable, de par les fortifications, et puis de par tous les Visigoths qui étaient résolus à mourir plutôt que de se rendre à Clovis. Et donc il est là avec son aumônier, le roi, et humainement, ce n'est pas possible. Rationnellement, il ne peut pas prendre la ville. Ils ont perdu trop de guerriers. Et il demande à son aumônier d'aller à Bazas, cathédrale de Bazas, qui est à quelques lieues d'Angoulême, d'aller chercher la relique du sang de Saint-Jean-Baptiste. L'aumônier revient avec la relique, ils repartent au combat, et quand la relique touche les remparts d'Angoulême s'effondrent, et toute l'armée des Francs pénètre dans la ville comme ça. Donc évidemment, les Visigoths, ils sont chassés. L'évêque arien qui avait pris la place, il est dégagé. Saint-Lupicin, son aumônier, évêque d'Angoulême au 5e siècle. Voilà, encore un film à faire, si Dieu veut. Et puis après, c'est l'action de grâce, la reconnaissance envers tous ceux qui l'avaient aidé, en particulier Saint-Martin, qui retourne à Tours et il offre son cheval de bataille à Saint-Martin, un peu comme un ex-voto, qu'il rachète ensuite, parce que les chapelains n'ont que faire de son cheval de bataille. Il le rachète pour une certaine somme, le cheval ne bouge pas. Et Clovis, à ce moment-là, paye double la mise, double la somme. Le cheval consent à repartir, et d'où le mot du roi qui dit, à ce moment-là, la bénédiction de Martin est efficace, mais il est dur en affaire. Voilà, il faut le rétribuer. Et ce sera la générosité de Clovis et de ses successeurs envers l'Église, qui feront toujours des aumônes un peu extraordinaires pour les abbayes, pour les cathédrales. Et à ce moment-là arrive aussi un événement à Tours. Il y a l'ambassade de Constantinople. Donc le seul empire, je l'ai dit tout à l'heure, l'empire romain est effondré, c'est l'empire romain d'Occident. Mais l'empire romain d'Orient, lui, il continue à fleurir, même s'il sombre justement dans l'hérésie au moment où Clovis arrive. L'empereur d'Orient, Anastase, envoie une ambassade au roi pour lui donner les insignes de consul. Donc c'est dire que l'empereur d'Orient considère Clovis comme son égal à partir de ce moment-là. Et en fait, non seulement Clovis est son égal, mais il le supplante justement de par sa vraie foi et de par le vrai rôle qu'il va tenir à la suite vis-à-vis de l'Église. Parce qu'au départ, c'est l'empereur qui est chargé de la défense du pape. Et avec Clovis, on comprend que c'est le roi des Francs, mais qui est aussi véritable empereur romain qui a pris en charge cette défense du pape. Un signe qui ne trompe pas, qui fera la différence avec Napoléon, c'est que quand il reçoit la couronne de cette ambassade, il ne la prend pas pour la mettre sur sa tête et dire « maintenant c'est moi l'empereur ». Il demande à l'évêque d'Angers, je ne sais plus son nom, vous trouverez, c'est indiqué dans l'évêque d'Angers vient, et c'est lui qui couronne le roi. Il ne veut pas que son pouvoir vienne de sa propre main. Il aime avoir son pouvoir qui lui vient de l'Église. Donc là aussi, on retrouve toute la doctrine du sacre, que le roi n'est pas roi par sa naissance. Quand on dit « vive le roi est mort, vive le roi », oui, c'est un cri d'usage en France, mais le vrai cri est plus surnaturel et plus selon l'esprit de Sainte-Jeanne d'Arc, c'est de dire que c'est le Christ qui est vrai roi de France, et que comment est-ce qu'elle dit, gentil dauphin, c'est par votre sacre que Sainte-Jeanne d'Arc appellera le roi Charles VII du titre de roi. Avant, c'est gentil dauphin. Donc c'est le roi qui fait le sacre. C'est le sacre qui fait le roi, pardon. Ensuite, de Tours, le roi va à Orléans. Et là, il se passe encore des prodiges. Le moine qui avait restauré l'abbaye de Saint-Hilaire à Poitiers, qui s'appelle le moine Fridolin, a eu un songe. Et ce songe lui dit que c'est au roi de France de rebâtir cette basilique. Maintenant que les Visigoths sont partis et qu'ils avaient tout ravagé, maintenant il faut rebâtir ça, c'est au roi de France. Et il indique le lieu pour retrouver le tombeau de Saint-Hilaire qui avait été perdu également par les ravages des Visigoths. Donc Fridolin vient avec l'évêque de Poitiers, il vient trouver le roi. Et là il se passe un événement, donc il est à la cour avec le roi qui lui donne un vase. Comme c'était l'usage pour les personnages importants, on offre un vase avec du vin, chacun boit dans cette... Et le moine, le saint Fridolin, fait tomber le vase à terre, le vase se fracasse. Et le roi est vraiment affligé, Clovis est affligé à ce moment-là, pas tellement pour la valeur du vase qui est brisé, mais parce qu'il se dit, pour tous mes guerriers qui ne sont pas encore convertis, ce sera le signe d'un mauvais présage pour eux. Et donc il demande au moine de faire quelque chose, le moine se met en prière, il récupère les morceaux et le vase se reconstitue. Et là, c'est un petit peu le pendant du vase de Soissons, qui avait où Clovis aurait voulu rendre le vase intact à l'évêque, il n'avait pas pu. Et là, par les prières du saint, par la foi aussi du roi, ben, le vase se reconstitue, et donc conversion, confession, et le moine est là, l'évêque est là, donc à chaque fois une partie de l'armée continue à se convertir. Ça aussi, c'est un exemple admirable de Clovis et puis des autres rois, c'est la liberté qu'ils ont laissée. Il a dit « moi je me convertis, qui même me suivent ?» un peu comme Sainte-Jeanne d'Arc, et ils n'ont jamais contraint leur armée à se convertir. Mais ils ont tout fait pour. Et les 15 premières années entre son avènement comme roi à 15 ans et son baptême à 30 ans, qui explique aussi le temps long de sa conversion, c'est que pour Clovis, c'est impossible de se convertir si son peuple ne le suit pas. Il est tellement attaché à son peuple que c'est comme une tête avec son corps. Il faut que ça suive derrière. Et donc, donc c'est une lente ascension du peuple franc. À la fois, lui est attiré par Saint-Rémy, ensuite ce sera par Sainte-Clotilde quand il sera marié, et à la fois il attire ses francs, et l'épisode du vase de Soissons, c'est pas juste la violence d'un roi qui va rendre justice un an après contre celui qui s'était permis d'être insolent envers le Clovis, mais c'est aussi signifier à son armée qu'à partir de maintenant, le bon plaisir d'un évêque passera au-dessus des coutumes de son peuple. Donc c'est la foi qui passe au-dessus de la nature, des habitudes, des us et coutumes de leur peuple. Et dans cette ascension, ce sera indiqué comme ça dans la loi salique. Loi salique parce que matériellement, c'est vrai que c'est des Francs-Saliens, mais c'est une loi qui est chrétienne, qui sera corrigée et amendée dans un sens catholique par Clovis et sûrement Saint-Rémy, au lendemain du sacre. Et dans cette loi salique, donc il indique que c'est Dieu qui est le fondateur de cette nation franque, c'est-à-dire qu'avant c'était un peuple, maintenant c'est une nation, et c'est Dieu qui l'a faite par tous ses miracles. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, que dans ce prologue de la loi salique, on lit que cette nation qui était encore païenne, sous l'inspiration de Dieu qui conduisait les événements, que cette nation cherchait la clé de la science. Aspirait, attendez, je vais vous le dire parce que... En une phrase... Voilà. « Lorsqu'elle était encore sous une croyance barbare, sous l'inspiration de Dieu, elle cherchait déjà la clé de la science. » En désirant la justice et aspirant à la piété. Et donc ça, c'est la reconnaissance, écrite après coup, mais que le peuple montait vers sa conversion, et que la conversion du roi et des francs s'explique par tout ce qui précède. Et cette expression, elle cherchait déjà la clé de la science, ça m'a fait penser à une parole de l'Évangile, quand notre Seigneur dit aux pharisiens que vous avez pris la clé de la science et vous n'avez pas permis au peuple d'y entrer. Ben les Francs, c'est exactement la vocation contraire des pharisiens. Ils ont trouvé la clé de la science par grâce de Dieu, et leur vocation ensuite, c'est de la répandre, d'abord dans l'armée, ensuite en Aquitaine, en Bourgogne et dans le monde entier, de faire comprendre que Dieu a un plan sur cette terre et que ce plan, il passe d'abord par cette histoire qui s'est passée en Gaule il y a 15 siècles, et que cette histoire-là, elle doit se reproduire partout, évidemment adaptée d'une certaine manière, mais que ce sera l'évangile de la politique chrétienne de demain. Et qu'on ne peut pas en sortir, parce que si nous, on a été infidèles à cette politique, on a perdu le fil de cette histoire, Dieu, lui, ne perd pas le fil. Et donc, il sera toujours temps de revenir à cette tradition et à cette histoire. Une autre découverte qui me semble vraiment extraordinaire de cette histoire, c'est l'histoire de cette fleur de lys, qu'on ne sait plus très bien d'où elle vient, mais quand on lit simplement les chroniques qui racontent l'histoire de Clovis, ben on découvre que cette fleur de lys, elle vient de Clovis aussi. C'est un don de Dieu fait à Clovis, à un moment où il était en difficulté, avant même son baptême, et il ne parvenait pas à prendre le dessus sur son ennemi. Et la reine, chaque fois que le roi partait en campagne, priait non seulement pour le succès des armes du roi, mais pour la conversion du cœur de son mari. Et elle allait dans un lieu qui s'appelle maintenant Joyenval. À l'époque, c'est la forêt de Poissy. Je ne sais pas si ça s'appelait Poissy. Elle allait trouver un ermite qui priait pour le roi. Et elle, ça lui faisait sa petite retraite. Et un jour qu'elle arrive et qu'elle expose les difficultés du roi, l'ermite lui dit: cette nuit, j'ai eu l'apparition, un songe, Saint-Michel est descendu et a apporté un blason avec trois fleurs de lys, telles que celle-ci, sur ce blason. Et l'ermite dit à la reine: si le roi prend ce blason et laisse les trois crapauds qu'il avait de ses armes païennes, il aura la victoire en nom de Dieu. Et donc, évidemment, le blason arrive le plus vite possible auprès du roi, qui repart au combat en prenant ce blason. Et là, petite parenthèse, mais le roi qui n'est pas chrétien, qui fait cet acte de foi envers sa femme qui lui dit de faire comme ça, et bien vous avez le remède, le pendant à Louis XIV qui aura le même genre de promesse, 1300 ans plus tard, avec le Sacré-Cœur. Mais Louis XIV, dans toute sa gloire, avec toute sa piété pourtant qu'il avait, et bien il n'a pas voulu. Tandis que là, on a un roi qui a voulu avant même d'être chrétien. Et de nombreux historiens ou théologiens diront au XVIIe siècle, pour retrouver cet apogée du royaume de France, il faut se replonger, comme dit la parole de Léon XIII, là, que je vous citais tout à l'heure, dans nos origines, parce que dans cette origine-là, on a une pureté de foi, une simplicité de cœur qui fait que Dieu bénit, Dieu donne des miracles, et puis l'histoire s'est faite comme ça. Mais quand on commence à écouter trop la raison, et les gens qui savent et qui disent « Sire, ce serait peut-être pas diplomatique, parce que qu'est-ce qu'on va penser à la cour d'Autriche ?» la diplomatie, c'est le bon Dieu qui s'en occupe, quoi. C'est pas nous de faire le... Ils demandaient un acte de foi. Et quand les chevaliers de Clovis sont montés en haut, la première fois, avec ses armes, ils ont crié « Montjoie », d'où le cri « Montjoie », et puis après on rajoutera « Saint-Denis ». Donc on a en germe, là aussi, toute l'institution de la chevalerie française qui met sa force au service de l'Évangile et qui est un premier coup d'arrêt aux barbares où c'est la force qui prime le droit. Là, c'est l'Évangile qui prime et la force. Enfin, qui prime la force. Et voilà, que dire encore Un mot aussi sur cette sainte ampoule, parce que tout à l'heure je vous parlais du parallèle entre l'histoire d'Israël et l'histoire de France, et que l'histoire de France prenait la suite. J'ai trouvé une étude où quelqu'un fait remarquer que les rois de Juda, que le dernier roi de Juda a été assassiné par Nabucodonosor, et ensuite a ravagé le temple, ils avaient aussi une petite fiole avec de l'huile pour oindre les rois, depuis le roi David. Et cette fiole a été perdue dans les décombres de Jérusalem. Il disait que c'était vraiment la suite de l'histoire, 1000 ans plus tard. C'est le bon Dieu qui renvoie une fiole, mais ce n'est pas simplement la fiole des rois de Juda, qui était quand même une fiole faite de main d'homme. Là, c'est une fiole qui vient du ciel, qui fait que c'est quand même la suite de l'histoire, mais à un point de vue, à un niveau supérieur, puisque les rois de Juda n'étaient que la figure des rois de France, qui eux sont les acteurs, les lieutenants du Christ sur la terre. Alors peut-être un exemple plutôt un contre-exemple de vie de Clovis, étudié selon la raison, selon les historiens actuels. C'est tiré du Figaro Histoire, les racines chrétiennes de la France. Il y a des choses qui sont très bonnes dedans, tout n'est pas mauvais. Mais là, je vous lis juste un paragraphe, et vous allez compter le nombre d'expressions qui sont au contraire de tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Sauf la première phrase, qui est bien. C'est l'un des événements fondateurs de notre histoire. Ça, c'est bien. Il y a pourtant... Quand il y a pourtant, il faut se méfier. Il y a pourtant en lui une part de mystère qui nous restera toujours inaccessible. Et vous remarquerez, dans ces discours-là, ils commencent toujours par dire « c'est compliqué, on ne sait pas tout », pour pouvoir ensuite dire leurs idées à eux. Pendant la nuit de Noël, durant les dernières années du 5e siècle ou les premières années du 6e, la tradition a retenu la date de 496, mais ce put aussi bien être en 506, plus tard encore peut-être, le roi Clovis s'est fait baptiser par Saint-Rémy à Reims en compagnie de 3000 guerriers francs. Avait-il été converti par l'invocation du dieu de Clotilde et la victoire que lui avait procurée son intercession à Tolbiac, comme l'a prétendu Grégoire de Tours? On n'est pas très certain des dates de la bataille. Et l'histoire de la conversion du roi mérovingien a visiblement été recomposée par l'historien des Francs pour l'assimiler à celle de Constantin, remodeler a posteriori son image afin de la faire correspondre aux aspirations des élites gallo-romaines. Si bien que celui qui lit ça et ensuite il reprend Grégoire de Tours se dit tout ça, en fait, c'est une composition. Donc ça perd toute la... C'est comme si on vous disait que Sainte-Jeanne d'Arc, en fait, il ne faut pas croire que Sainte-Jeanne d'Arc, elle a délivré Orléans et qu'il y a eu des miracles, comme c'est raconté. Tout ça, c'est des... Bah, ça nous choque pour Sainte-Jeanne d'Arc, mais pour Clovis, comme on ne connaît pas bien et qu'on a oublié, bah, ça ne nous choque plus et on se fait avoir. Ou pour d'autres saints qu'on ne connaît pas. Parce qu'ils arrivent avec une certaine science, puis un certain langage quand même, hein, recomposé, assimilé, enfin remodelé a posteriori. C'est tout un esprit qui fait que le chrétien, s'il n'est pas armé par sa foi, et bah, peut être pris et puis se dire finalement il faut être intelligent et il ne faut pas être simplement crédule, croire tout ce qu'on nous a raconté. Et moi je voudrais retourner les choses en disant tout ce qu'on nous a raconté qui n'est pas prouvé comme étant faux, il faut le garder. C'est à eux de faire la preuve que c'est faux. Mais il ne suffit pas de dire comme l'a prétendu Grégoire de Tours pour que ce soit une preuve. Ce n'est pas une preuve, ça, c'est sa thèse, mais ensuite il faudrait qu'il puisse faire un argument. Il n'y a pas d'argument. Et j'ai eu un message aussi de, si certains connaissent, Jean Sévilla, je crois qu'il est assez connu comme historien, et sur le miracle de la Sainte Ampoule, il fait trois conditionnels. Donc, la Sainte Ampoule aurait été apportée par une colombe qui aurait été vue, etc. Et le roi qui aurait été sacré, du coup. Et je lui ai écrit pour lui demander, mais sur quoi vous vous fondez, enfin, pour faire le... Et donc il m'a répondu que ben, voilà, c'était le consensus actuel des savants qui... Il dit, dans l'état actuel, on n'a pas les documents qui prouvent que. Sauf qu'on n'a pas les documents actuels qui prouvent que c'est faux ou que c'est une légende. Donc de quel droit, vous voyez, ils se permettent de mettre en... Et il m'a dit ensuite, à la fin, qu'il se méfiait des lectures providentialistes de la vie de Clovis. Mais pourquoi providentialiste? Si c'est la providence qui intervient, il n'y a pas de preuve que ça a été inventé. Il ne peut pas dire à telle époque, on trouve celui qui a inventé ça, et puis il y aurait des gens qui se seraient opposés. Parce que quand Hincmar, qui est le premier qui raconte l'histoire de la Sainte Ampoule, la mentionne, il a des ennemis. Il a d'autres évêques ou archevêques qui auraient voulu faire le sacre des rois. Et donc, qui auraient pu aussi inventer une histoire. Et parmi ses concurrents, donc il y avait par exemple l'évêque de Chartres, et ben, il raconte la Sainte Ampoule, personne ne conteste. Donc c'est plutôt un argument en faveur de la vérité de cette histoire. Et puis le grand argument, c'est de dire, à partir du moment où cette histoire est inscrite dans la liturgie de l'église de Reims, et le sacre des rois, et la fête primitive de Saint-Rémy, si la liturgie l'enregistre, l'église le croit, donc il me semble qu'on doit le croire. Voilà, pour terminer... Pour terminer, je voulais finir sur un message d'espérance et puis de projet à mener. Parce que cette conférence, moi je voudrais la dédier à Saint-Rémy, par qui on a eu toute cette, c'est lui qui a initié toute cette histoire, Sainte-Clotilde, qui a si bien contribué à la conversion du roi, Saint-Rémy, Sainte-Clotilde, et peut-être, si Dieu veut, un jour, le saint roi Clovis. Et donc c'est l'épilogue de la première partie, « Faut-il canoniser Clovis ?» Et ça a été vraiment une joie immense de découvrir un père Carme, qui était un saint religieux, et qui a fait le travail, c'est-à-dire qu'il a fait la liste de tous les historiens qui ont considéré le roi Clovis comme un saint. Donc ça prépare le... Et il y a ce document-là, et puis il y a un certain Jean Savaron qui vient voir Louis XIII au XVIIe siècle et qui lui dit « Sire, si vous voulez faire quelque chose de bien pour votre royaume, demandez à Rome qu'il canonise votre ancêtre, votre aïeul, Clovis. » Ça n'a pas encore été fait, Mais on a bien attendu 5 siècles pour avoir la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc. S'il en faut 15 pour avoir celle du Saint-Roi Clovis, pourquoi pas? Mais il me semble que ça pourrait être un signal d'une renaissance politique et qui ne soit pas sujet de division entre les Français, mais qui soit au contraire un espèce d'élan unanime de se dire on nous a caché cette histoire, c'est pas normal. C'est ça qu'il faudrait mettre sur les affiches de la prochaine campagne, pas présidentielle, mais royale, de dire il faut renouer avec cette histoire-là. Parce que Dieu bénira les efforts qu'on fera dans ce sens-là, et parce qu'il y a quantité de Français qui attendent que ça, et qui essaient d'échapper à cette guerre qui n'en finit plus, de partis, et puis cette action qui semble de plus en plus comment dire, vaine, et puis même impie, et puis absurde, de croire que la politique consiste à mettre des bulletins de vote tous les 5 ans quand on nous demande, et que finalement, bah, à force de mettre des bulletins de vote, la politique continue à faire descendre le pays dans les abîmes qu'on connaît aujourd'hui. Donc, s'il peut y avoir un retour possible, pour moi, ça passe par ce retour à ses origines, à ses rois, à sa religion, et un roi qui est à la fois catholique. Voilà, merci beaucoup de votre attention.